7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, dans quelques minutes, ce sera la chronique de Ludovine de la Rochère et puis l'analyse de Jean-Eudes Gana. Donc, il reste encore un bon bout de matinale à faire avec nous. Restez bien là. Et puis, tout de suite, on va passer à la chronique de Jean-Eudes Gana.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Jean-Eudes Gana pour sa chronique hebdomadaire. Jean-Eudes Gana, bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu, mais je rappelle aussi, et c'est un peu ça qui me fait peur, que désormais je parle à un multirécidiviste.
Bonjour Alexandre. Écoutez, non, pas encore, parce que en effet, j'étais hier au tribunal. J'y ai passé la journée, hein, de 13h30 à 18h, je crois. Et je comparaissais pour une vidéo qui avait un petit peu fait parler d'elle, et on en avait parlé sur vos ondes notamment, devant le Leclerc de Segré, où je dénonçais la présence massive d'Afghans dont j'ai eu l'outrecuidance et la velléité blasphématoire de dire qu'ils étaient, enfin que j'en avais marre de vivre avec les cousins des talibans jusqu'au fin fond de nos campagnes. Et donc je comparaissais hier pour provocation à la haine et injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Voilà, rien que ça. Et ça a été assez animé pour plusieurs raisons. D'abord parce que Angers donne parfois l'impression d'être une sorte de faille spatio-judiciaire lorsqu'il s'agit de juger des militants identitaires ou nationalistes. C'est en tout cas ce que m'ont confié un certain nombre d'avocats d'autres barreaux, hein, notamment du barreau de Paris ou du barreau de Rennes, lorsqu'ils viennent ici et qu'ils réalisent que le parquet, disons, sort un petit peu de la neutralité politique à laquelle ils devraient s'astreindre. Voilà. Et j'étais donc face à l'inénarrable procureur de la République, Monsieur Bouillard, qui n'est plus parmi nous pour très longtemps parce que il part courant juin, je crois, à Riom, enfin ça s'écrit Rioms, mais voilà, à Riom, donc dans le centre de la France. Enfin, je dois dire que nous avions décidé d'assumer une défense de rupture pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, chaque fois que j'ai eu des démêlés judiciaires à Angers, ça a été de véritables procès de Moscou ou procès de Nuremberg même, du moins nos adversaires le voyaient ainsi. Et donc, étant donné le caractère totalement risible des faits qui m'étaient reprochés, j'avais fait le choix d'annoncer d'emblée au président du tribunal que je ne reconnaissais pas la légitimité de la plupart des lois sur lesquelles, à partir desquelles j'allais être jugé, à savoir les lois Pleven, Guesso, toutes les lois liberticides, les lois Avia, etc. Enfin, toutes les lois qui musellent la liberté d'expression, liberté pourtant dont on se réjouit sans cesse en France et dont on s'enorgueillit de l'inscrire au fronton des bâtiments officiels. Voilà, j'en ai profité pour rappeler à Monsieur le procureur de la République que je m'étais retrouvé quand même en garde à vue moins de 24 heures après cette vidéo totalement anodine, tandis que toutes les plaintes que nous déposons à Angers pour menaces de mort, dégradation de nos entreprises, tags sur des lieux privés, etc., de la part des antifascistes, toutes ces plaintes sont classées sans suite.
Oui,
par le
parce que ce que j'allais dire, Jean-Yves Gana, quand même, c'est que ce procès a été très rapide, même dans sa mise en application. C'est-à-dire que c'est le 4 novembre que vous avez publié votre vidéo, et ensuite, on est le 6 mai, et déjà, vous êtes jugé.
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais comme quoi la justice est capable de célérité et de scélératesse aussi, mais c'est autre chose. Et donc j'en ai profité pour rappeler d'ailleurs que au-delà de mon petit cas personnel, c'était pas vraiment le procès Bouillard contre Gana, mais bien le procureur de la République, les médias aux ordres et toutes les composantes du système face à un peuple français sommé de fermer sa gueule dès lors qu'il osait critiquer l'immigration et qu'au-delà de mon petit cas personnel, on avait fait de ma personne un exemple. Voilà, on avait voulu faire de ma personne un exemple pour empêcher les gens de s'exprimer. bon, bien mal leur en a pris, puisqu'en réalité, je crois que c'est exactement ce qui nous aura permis de constituer une liste d'abord à ce gré et ensuite d'obtenir cet élu. Mais passons, il y avait face à nous, donc constitué en partie civile, bien sûr, SOS Racisme, hein, qui depuis pas loin de 50 ans, hein, au moins plus de 40 ans, fait la joie des prétoires en France à poursuivre quiconque ose défendre l'identité française, et le tout, bien sûr, toujours, systématiquement, avec nos impôts, hein, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et moi, je suis le contribuable par excellence, parce que je suis le chef d'entreprise, je suis un petit chef d'entreprise, et donc je dois payer à la fois pour les migrants et en même temps pour les associations qui viennent en aide aux migrants. C'est vraiment totalement délirant, et aussi pour les associations qui me poursuivent. Voilà. Et il y avait également la Ligue des droits de l'homme, avec tous ses supporters, un ensemble de sympathiques boomers, voilà, gauchistes caricaturaux. C'était vraiment totalement caricatural, puisqu'il y avait d'un côté de la pièce vraiment les vieux gauchistes, et de l'autre nos soutiens, qui étaient quand même majoritairement jeunes et propres et bien habillés. Voilà, c'était assez amusant. Bon, voilà, enfin, non, je vais même pas vous passer le détail. Disons que ça a été vraiment totalement aberrant. On a quand même entendu notamment la phrase de l'avocat de la LDH qui a dit: il ne faut pas juger Monsieur Gana pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est.
Ah oui,
Voilà.
au moins, oui.
Ce qui, lorsque l'on est un habitué des réductions ad litteram, à quelque chose d'assez cocasse, parce que ça nous rappelle une rhétorique des heures les plus sombres. Bref, les débats comme ça ont duré durant plus de 3-4 heures. Je tiens à saluer à l'antenne à la fois tous les gens qui sont venus, qui nous ont écrit des messages pour nous soutenir, etc. Mais aussi tout particulièrement nos deux avocats, donc Maître Sassi, qui est un habitué de vos ondes,
Qui était ce
et
matin d'ailleurs sur ligne droite.
Ah, d'accord. Et ainsi que Maître Ludili, voilà, avocat au barreau de Rennes, qui ont tous deux plaidé avec beaucoup de brio, chacun avec leur patte, leur sensibilité, avec sa patte, sa sensibilité. Maître Ludili allant plus au fond, et Maître Sassi sur une plaidoirie plus politique. Mais je dois dire que se sentir ainsi porté par tous les gens qui nous ont écrit, et notamment des auditeurs de Radio Courtoisie qui m'ont écrit, les gens qui sont venus au petit rassemblement qu'on avait organisé avant. Voilà, ceci fait chaud au cœur, parce que même si je n'ai pas le sentiment de subir des choses aussi dures et aussi difficiles que de s'élancer d'une tranchée sous la mitraille ennemie, il est toujours réconfortant, je dois dire, d'avoir des soutiens un peu partout dans le pays, et qui vont même depuis Paris, puisqu'il y avait des camarades parisiens, à la fois des inconnus, des anonymes, mais aussi Yona et Alice de Némésis, qui sont venus très gentiment me soutenir et médiatiser cette affaire, et qui, elles aussi, ont été un petit peu surprises du déroulement un peu lunaire des débats, parce qu'à Angers, c'est toujours un peu particulier, et du caractère totalement politique du procès. Et pourtant, elles ont l'habitude de suivre des procès, voire d'en subir.
Mais
Mais
justement, j'allais venir. On peut peut-être parler aussi de la sanction qui a été prononcée, Jean de Ganin.
alors, le SOS Racisme, toute honte bue, a demandé 10 000 euros de dommages et intérêts pour leur association. La LDH a demandé 500 euros par migrant terriblement offensé. Et le procureur avait requis 1 000 euros d'amende et 4 mois avec sursis. Le délibéré aura lieu le 10 juin. Mais pour ne pas parler que de mon petit cas personnel, je voulais faire une ouverture, comme on dit en langage scolaire, sur le fait que nous sommes dans une société qui est pleine de droits individuels, notamment le droit à ne pas se sentir offensé, à ne pas avoir sa sensibilité heurtée. Et ainsi, on a des droits antiracistes, des droits pour les LGBT, des droits pour toutes les minorités, etc., qui sont, nous dit-on, autant de libertés individuelles garanties, voilà, des libertés pour être différent, pour être musulman, pour être juif, pour être homosexuel, pour être migrant, pour tout ce que vous voulez, mais que toutes ces libertés individuelles qu'on nous vend et qui sont devenues depuis mai 68 les réclamations principales de la gauche, voilà, qui est passée d'un combat pour la justice sociale à un combat pour les libertés individuelles, eh bien, ce sont autant de préoccupations qui nous éloignent des libertés politiques véritables. Voilà, je le dis à nos auditeurs qui, pour la plupart, le savent, mais il est de bon ton de rappeler à nos compatriotes que chaque fois qu'on leur vend des libertés individuelles, on leur rogne des libertés politiques, notamment des libertés d'expression, que chaque fois qu'on essaye les occuper à leur confort, à leurs petits droits, à leurs petites sensibilités, on en profite pour leur ôter leur souveraineté, le droit d'avoir un droit de regard sur le programme scolaire de ses enfants, etc. etc. Et il y a donc une grande inversion, c'est qu'au nom de la liberté avec un grand L ou des libertés individuelles, on a renié nos libertés politiques. C'était le thème du colloque de l'Iliade. Voilà, et je me permets cette petite incise parce que ça correspond tout simplement à l'intervention que j'y ai faite et que j'ai retravaillée un petit peu ce matin.
Et alors, petit point aussi qui est pour moi intéressant, c'est que finalement, est-ce que les Afghans eux-mêmes étaient là est-ce que eux-mêmes, justement, se sont exprimés pour expliquer à quel point ils se sont sentis offensés?
Non, ils n'étaient pas là. Ils auraient été bien en peine de s'exprimer pour se sentir offensés parce qu'ils parlent un français extrêmement approximatif. Après cinq ans sur le territoire, ils se trimballent encore en tenues traditionnelles qui sont les mêmes que celles des talibans, hein, n'en déplaise aux avocats des partis civils et des officines antiracistes, et qu'ils n'étaient pas là. Voilà, ils n'étaient pas là. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout aussi offensés qu'on le dit. D'ailleurs, l'avocat de l'LDH, c'est très intéressant, qui donc a dit que je les avais traumatisés, qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient fui leur pays, parce qu'ils étaient menacés de mort, etc., a dit dans la même plaidoirie qu'ils ne rentraient chez eux que très rarement pour des vacances. Voilà. Donc ça veut dire que les gens qui me poursuivent parce que soi-disant ils sont menacés de mort en Afghanistan rentreraient en vacances en Afghanistan, si j'en crois l'avocat de la LDH, qui ensuite, lorsque je le lui ai fait remarquer, m'a dit « Non, mais en fait, ils voient leur famille, mais à l'étranger, donc en dehors de l'Afghanistan. » Ce qui signifie donc que soi-disant ils sont menacés de mort comme toute leur famille, mais que leur famille peuvent sortir d'Afghanistan et y retourner, si ce n'est pas eux-mêmes qui y retournent. Voilà, preuve supplémentaire à la fois de la mauvaise foi des partis civils, mais aussi du laxisme en termes d'immigration, parce qu'en réalité, on accorde des statuts de réfugiés à des gens qui bien souvent retournent au pays, pendant qu'on criminalise ceux qui osent exprimer des doutes ou des colères sur cette politique totalement ubuesque.
Merci Jean-Luc Gana d'avoir été avec nous. Effectivement, ce qu'on voit dans le fond, c'est que ceux qui se sentent vraiment, encore une fois, les plus offensés, ce ne sont certainement pas les Afghans, ce sont beaucoup plus les associations de gauche boomer dont vous parlez. Mais merci effectivement d'avoir été avec nous.
Et les Français, oui. Qui eux n'ont personne pour les défendre, ou presque.
Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Gana d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, on va écouter Ludovine de La Rochère pour sa chronique.
Ligne droite.
Depuis quelque temps, la fête des gens que j'aime commence à remplacer la fête des mères ainsi que la fête des pères. Cela se trouve dans les écoles, l'affichage public, chez les commerçants, etc. Plus répandu encore, et vous l'aurez sans doute remarqué, les termes « parent 1 » et « parent 2 » remplacent de plus en plus souvent « père » et mère dans les documents scolaires, étudiants, administratifs, etc. En ce qui concerne les établissements scolaires, ces formulations se sont diffusées même dans les établissements privés. C'est tout à fait étonnant. En menant l'enquête, le syndicat de la famille a constaté un double mouvement. Dans certains cas, c'est délibéré. Parent 1 et parent 2 sont utilisés partout par l'école. Dans d'autres, cela semble être plutôt de la naïveté. Père et mère sont généralement utilisés lorsqu'on s'adresse aux parents ou lorsqu'on parle des parents, mais on trouve de temps à autre parent 1 et parent 2, comme si la formule était reprise sans réaliser ce que cela signifie. Or, ces formulations n'ont évidemment aucun sens, puisque personne n'est parent 1 ou parent 2. Lorsqu'on a un enfant, on est père ou on est mère, et pour nos enfants, on est papa ou maman. Ces termes sont odieux parce qu'ils sont laids, bien sûr, mais aussi parce qu'ils effacent, ils font disparaître les pères et les mères, la paternité et la maternité. Père et mère sont des termes très forts, très beaux, et comme nous avons tous un père et une mère, ils sont aussi incarnés dans l'esprit de chacun d'entre nous. Ces mots correspondent donc à la fois à l'idée de la maternité et de la paternité, mais aussi au lien qui unit le père et la mère à leur enfant, et enfin à des personnes. J'ajouterai aussi que le père et la mère, ce sont un homme et une femme, des termes différents pour des réalités différentes. En effet, l'homme et la femme sont différents l'un de l'autre, et c'est bien ce qui les rend complémentaires l'un de l'autre, nécessaires l'un et l'autre. Et lorsqu'ils sont père et mère, chacun apporte différemment à l'enfant, chacun lui est nécessaire pour venir à la vie d'abord, mais aussi pour bien grandir. Hélas, d'autres dérives se présentent sur ce thème. Des maternités se mettent à utiliser le terme de coparent à la place de père, pour les consultations médicales, les séances de préparation à l'accouchement et même la naissance. Les femmes enceintes sont invitées à venir avec leurs coparents. C'est ce que l'on trouve par exemple à la maternité Saint-Joseph à Paris. Et quelques maternités, certes rares, mais cela existe, vont jusqu'à nommer les futures mamans des personnes qui accouchent. Les termes de femme et de mère sont évacués jusque dans cet incroyable moment de la naissance. Dans le droit français aussi, les mentions père et mère disparaissent, exit le féminin et le masculin pour la famille. Au fil de leur adoption ou de leur révision, nos textes de loi ne comportent plus que le terme de parent. Terme indifférencié donc. Je note également qu'on n'emploie plus guère les termes si beaux de paternité et de maternité. On emploie désormais dans le langage courant, en tout cas les institutions et les universités, le terme neutre et politisé de parentalité. Alors pourquoi ces dérives? Pourquoi ces évolutions insidieuses? L'objectif serait de ne pas froisser des parents qui ne correspondraient pas au schéma père-mère-enfant. Alors on vous citera les veufs, les veuves, les mamans seules, les pères seuls, etc. Dès lors que l'enfant ne vit pas avec ses deux parents ou qu'il a perdu l'un des deux, il pourrait être peiné de participer aux préparatifs, par exemple de la fête des mères ou des pères. Cela fait pourtant bien longtemps que ces situations existent, et cela n'avait jamais conduit à changer le nom de ces fêtes ou à parler de parents 1 ou de parents 2. Et d'ailleurs, pourquoi pas de parents 3 et de parents 4, tant qu'on y est. En réalité, ces dérives ont commencé en 2014, à la suite de la légalisation du mariage de personnes de même sexe et avec l'accentuation de la propagande du genre et transactiviste. Les responsables d'établissements ou d'organisations qui sont plus honnêtes vous diront qu'il s'agit de ne pas froisser les parents de même sexe ou les personnes qui se disent non-binaires, trans, agenres, pangenres, bigenres, etc. Là, on est plus proche de la vérité. Sauf que j'y vois pour ma part la volonté proactive d'effacer la différence des sexes et donc la différence père-mère. Il ne s'agit donc pas en réalité de ne pas froisser, il s'agit de banaliser, d'habituer, c'est du militantisme. Or cette colonisation idéologique fait donc disparaître la maternité et la maternité pour tous. Parce que quelques-uns se vivent comme deux pères, deux mères, mère ou père trans, tous les pères et les mères se trouvent effacés. Et même s'il s'agissait seulement de ne pas froisser quelques personnes, on serait donc prêt à froisser tous les pères et les mères. Certes, comme ils n'ont pas l'habitude de victimiser, ils ne se plaignent pas forcément. Mais c'est tout de même un comble. C'est d'autant plus absurde que même lorsque deux personnes de même sexe élèvent un enfant, ils ne sont pas non plus parents 1 ou parents 2. Est-ce vraiment si important, vous dites-vous peut-être? En l'occurrence, oui. Être père ou mère est un aspect considérable de notre existence. Et ces termes situent aussi l'enfant dans le monde et lui montrent qu'il est aussi dans le cœur de son père et sa mère. Les liens maternels et paternels sont profondément structurants, et ce jusqu'au dernier souffle des parents comme de l'enfant. Que la proximité soit quotidienne ou distendue, ces liens demeurent. C'est aussi ce qui les rend infiniment précieux. Il s'agit bien sûr en vérité de transformer notre société, car vous le savez bien, le langage est une arme idéologique majeure, comme l'a si brillamment montré 1984, le roman de George Orwell. Alors pouvons-nous agir? Que peut-on faire, me direz-vous? Je vous propose d'abord, chers auditeurs, de raturer systématiquement ces mots et de les remplacer par les bons termes. Sur un formulaire scolaire, par exemple, ne laissez jamais passer. Rayez et mettez en bien gros « père » et « mère ». Ou si vous élevez votre enfant seul, mettez le terme qui vous concerne, mais barrez aussi le mot « parent 2 ». Je vous invite également à signaler au syndicat de la famille ce que vous observez autour de vous. Rendez-vous sur notre site internet officiel et écrivez-nous. Précisez-nous ce que vous avez constaté, dites-nous où cela se trouvait, quand vous l'avez vu, etc. Et vous pouvez compter sur le syndicat de la famille. Nous mènerons systématiquement campagne et même quand cela sera possible juridiquement, nous saisirons la justice. Ne laissons rien passer. Merci de votre écoute.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, comme chaque jeudi, nous retrouvons Jean Messia. Bonjour Jean, comment allez-vous ?
Alexandre, comment allez-vous ? Comment vont les auditeurs ? Un grand bonjour à tous.
Voilà, de notre côté, ça va très bien en tout cas. Écoutez, il y a plusieurs sujets que vous vouliez aborder aujourd'hui. Peut-être que le premier qu'on peut traiter, ce serait cette question de la liberté d'expression. On est à un an de l'élection présidentielle et il semble que le système resserre les vis. On pense notamment à quelque chose qui peut être un petit peu surprenant d'une certaine façon, c'est la proposition de loi sur l'entrisme islamique, donc sur le papier quand on lit ça, très bien. Cependant, quand on avance un petit peu plus dans le dossier, on voit que finalement, ce qui pourrait se passer, c'est que on parle d'en parler avec Mathieu Sassi en ouverture de cette matinale, eh bien, il serait possible que les associations qui, je cite, provoquent à la haine, enfin provoquent la haine, provoquent la discrimination, incitent à tout cela, eh bien, se voient gelées leur fond. Comment vous expliquez le fait que cet article se retrouve dans une proposition de loi sur l'entrisme islamique déposée par Bruno Retailleau ?
Bah, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Je pense que quand Bruno Retailleau a imaginé ce projet de loi, il le croyait consensuel et consensuel, il l'est si l'on en reste au titre de la loi. Je veux dire, à part quelques excités d'extrême gauche, et à part évidemment ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire le tentacule français de la Oumma, aucun Français aujourd'hui est favorable à l'entrisme islamique et au dévoiement de nos institutions par l'entrisme islamique. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que, comme vous l'avez rappelé, l'article 6 de cette loi, qui normalement est destiné évidemment à combattre les associations islamiques haineuses de la France, les prêcheurs de haine, etc., eh bien, ce qu'on faut comprendre, c'est qu'elle s'applique aussi à ce qu'on pourrait, grimer en association haineuse ou en opinion haineuse. En réalité, à travers cet article, on pourrait geler sans condamnation pénale, sans procès, les fonds de toute personne qui, je cite, « propage des idées tentant à justifier une discrimination ». Donc en gros, si vous défendez par exemple la préférence nationale pour les aides sociales, ça pourrait suffire à voir geler votre compte. Une simple décision administrative pourrait littéralement vous ruiner. Alors notre vice-présidente Sarah Knafo à Reconquête a fait un travail extraordinaire puisqu'elle a listé en fait toutes ces menaces en 10 points dont je voulais aussi vous parler, parce que vous parlez de la loi, du projet de loi Retailleau, c'est un fait, mais on pourrait aussi citer le projet de loi Nunez,
oui,
contre l'entrisme, qui prévoit aussi des mesures de dissolution et de gel d'avoir. La rédaction est si large de cette loi qu'elle pourrait viser tout groupement politique jugé contraire au vivre ensemble, vous vous rendez compte ?
Il y a un côté là-dessus qui est assez surprenant, c'est quelque chose de très français, c'est que quand une personne ou une catégorie de personnes fait quelque chose de mal, il faut absolument punir tout le monde.
Exactement. Et en réalité, à travers cette loi, vous l'avez défloré, c'est que plus personne n'est à l'abri. Il y a également la proposition de loi Yadan. Bon, elle a été retirée,
oui,
mais le gouvernement a immédiatement annoncé un projet de loi porté par Aurore Berger, présenté en Conseil des ministres avant l'été, qui prévoit une peine d'inéligibilité obligatoire pour tout élu condamné pour propos jugés haineux. Et quand on voit, si vous voulez, que la justice est gangrénée quand même par un parti pris gaucho-progressiste, voire d'extrême-gauche évident, tout ce système se tient. C'est-à-dire qu'il vous suffirait, moi j'en ai fait les frais, Éric Zemmour en a fait les frais, il suffit de critiquer un peu vertement l'invasion migratoire, critiquer un peu vertement l'islamisation, pour qu'immédiatement vous ayez une LICRA ou une SOS racisme qui porte plainte contre vous, immédiatement la justice qui évidemment baigne dans ce même univers gauchiste antinational, eh bien, aura tôt fait de vous condamner pour vous délivrer le brevet, en quelque sorte, de pestiférer, qui permettra ensuite de vous considérer comme quelqu'un, comment dirais-je, de nuisible à la société.
Oui.
Donc un discours jugé offensant pourrait en fait vous empêcher de représenter vos concitoyens. Et qui juge que le discours est haineux ? Une justice qui est de gauche. Fabuleux quand même, c'est extraordinaire. Voilà, il y a aussi, on pourrait parler du député Renaissance, Paul Midi, qui veut encadrer, tenez-vous bien, le temps de parole des politiques sur les réseaux sociaux, comme dans les médias audiovisuels. Alors, concrètement, l'État déciderait combien de fois vous avez le droit de vous exprimer en ligne, combien de tweets ou de posts sur Facebook ou sur Instagram vous pourriez faire par jour.
Oui.
Et c'est l'ARCOM qui serait en charge de vérifier cela. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet ce matin, parce que je veux que quand même que nos auditeurs et que nos concitoyens se rendent compte de la mayonnaise fétide qui est en train de prendre en ce moment dans nos institutions.
Ouais, ce qui est fascinant, c'est qu'en plus, cette proposition de loi du député Midi, justement, intervient directement après des remises en cause importantes contre France Télévisions et contre l'ARCOM a fortiori, dans le sens où on voit justement que quand c'est le service public qui se charge de distribuer la parole, finalement, le respect des audiences n'est pas forcément tout à fait respecté. Et d'ailleurs, France Inter a même été épinglé par l'ARCOM pour n'avoir pas suffisamment donné la parole au camp national durant les législatives. Il y a quand même un côté où justement l'État lui-même ne s'applique pas ce qu'il souhaite appliquer aux autres.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez, le problème, c'est toute la question de la neutralité, parce que la neutralité est un concept évidemment nécessaire, extrêmement séduisant, s'il en est, pour une démocratie. Mais la neutralité a besoin d'un référentiel.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est neutre par rapport à quoi ? Et donc, si vous savez, c'est comme les jauges d'atterrissage qui prennent le sol, si vous voulez, le niveau du sol pour indiquer au pilote à quel moment il faut atterrir. Si la jauge d'atterrissage, vous la mettez à moins 300, le vol s'écrase.
Oui.
Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la jauge de neutralité n'est plus l'équilibre strict entre les courants de pensée, puisque vous avez un courant de pensée que vous criminalisez, que vous diabolisez, et donc à qui vous voulez interdire de parler, puisqu'on ne permet pas de parler au diable, on ne permet pas de parler à Satan.
Oui.
Et donc effectivement, toute cette propagande sur l'extrême droite, sur la nazification, la fascisation de quiconque n'est pas d'accord avec vous, vise en quelque sorte à se donner bonne conscience en présentant la censure, non pas comme une atteinte à la démocratie, mais presque comme une nécessité.
Oui, alors qu'en plus, en parallèle, dans la population, de moins en moins de personnes y croient. C'est-à-dire que dans le fond, finalement, en fait, la France Insoumise est considérée aujourd'hui comme étant un parti plus dangereux que le RN. D'une manière générale, les Français sont de moins en moins nombreux à considérer qu'il y a une sorte de péril fasciste en France, etc. Donc, il y a une sorte d'écart qui se réalise à ce niveau-là.
Non mais vous avez parfaitement raison, mais ce que vous appelez écart n'est en réalité qu'une causalité.
Oui.
C'est précisément parce que le discours de gauche, d'extrême gauche,
mais pourtant, ils ont dû voir que ça n'avait pas marché, Jean Messia, c'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans qu'ils essayent, donc 30 ans.
Mon cher Alexandre, pardonnez-moi de vous dire cela, mais vous êtes bien naïf. C'est précisé. Vous savez ce qui est en jeu, c'est pas simplement le discours de savoir qui a tort ou qui a raison. Derrière, vous avez des rentes de situation. Vous avez des prébendes, des gens qui vivent et qui en vivent, vous comprenez ? Donc derrière, si vous voulez, le discours alternatif, derrière le discours qui, comment dirais-je, s'oppose au discours dominant, il y a aussi la volonté de renverser un système dominant. Le discours n'est que la phase émergée, la superficie épidermique de l'iceberg de rente, de situations qui se sont installées et qui prolifèrent en quelque sorte depuis 50 ans. Donc, si vous commencez par attaquer le discours, Vous risquez de convaincre des gens.
Oui.
Si vous laissez parler les autres, vous risquez de convaincre les gens. Et comme
mais encore une fois, ça ne marche pas, Jean-Messia. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je ne comprends pas chez la gauche, et particulièrement chez la France Insoumise, c'est que, pardon, mais ça fait 30 ans qu'ils font des procès en nazification à toute la droite, à toute l'extrême droite, et que finalement, au bout d'un moment, ils devraient bien se rendre compte que ça ne marche pas, que les gens n'y croient plus, qu'en réalité, ça décrédibilise même la notion d'extrême droite, que les Français y croient de moins en moins. C'est-à-dire que pourquoi ils poursuivent dans cette stratégie alors que dans le fond, eh bien, en fait, on voit qu'à chaque élection, le camp national grimpe. On voit qu'à chaque élection, et bien en fait, même dans la société de tous les jours, en fait, c'est de plus en plus facile de se dire électeur du camp national, que c'est beaucoup plus simple de justement se réclamer de la lutte contre l'immigration. Plus de 70% des Français sont favorables à un arrêt total de l'immigration en France. Enfin, c'est des choses qui ne marchent plus. Ils devraient s'en rendre compte, non ?
Ah ça, justement, vous apportez de l'eau à mon moulin. Comme le débat ne marche plus et comme la conviction par le débat public ne marche plus, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure à travers toutes les mesures que je vous ai énoncées en exergue à mon propos et qui visent précisément non plus à débattre, non plus à nazifier ou à criminaliser l'adversaire, mais à le museler, à lui interdire de parler. C'est quand même beaucoup plus pratique, parce que si vous n'avez pas à vous expliquer face à quelqu'un qui vous apporte la contradiction, c'est quand même beaucoup plus simple. Et les gens qui ne s'expriment pas ne risquent pas de convaincre. On en est là, si vous voulez. Donc c'est extrêmement dangereux et il faut effectivement que les Français se réveillent, parce que il y en a encore plein d'exemples que je peux vous donner également qui se passent à Bruxelles. Le projet de chat control, par exemple, parce que vous savez que tout ce qui est fait au niveau national est relayé par Bruxelles et tout ce qui est fait par Bruxelles est relayé au niveau national. L'idée, c'est d'instaurer une gigantesque muselière du débat public. Parce qu'on sait très bien, que, comme vous le disiez d'ailleurs, que plus le camp national s'exprime, plus il est en phase avec un électorat qui pense la même chose, et plus tout cela risque de se transformer en monnaie électorale sonnante et trébuchante pour le camp national en 2027 qui risque de l'emporter.
Oui.
Vous comprenez ? Donc il faut absolument le interdire par tous les moyens au camp national de parler pour ne pas convaincre, pour ne pas risquer de perdre l'élection. Voilà la trilogie, si vous voulez, de la logique actuelle.
Alors, autre point qu'on voulait aborder, Jean Messia, c'est la question de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, en réalité, donc Jean-Luc Mélenchon s'est présenté officiellement comme candidat à la présidentielle dimanche dernier, mettant fin à un faux suspense. Est-ce que c'est vraiment une actualité ?
C'est pas une actualité, mais comme dirait l'autre, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Maintenant que l'adversaire était effectivement identifié sans ambiguïté aucune, on voit, si vous voulez, que Mélenchon se présente un peu comme, enfin pas qu'un peu, comme le cheval de Troie, non pas de la convergence des luttes, mais de la convergence des haines de la France. C'est marrant parce que, si vous voulez, la France insoumise, c'est un paravent de Français, en tout cas les grands cadres de la France insoumise, c'est un paravent de Français de souche qui servent finalement de tapis rouge, de cheval de Troie à toutes les haines de la France qui poussent leurs pions depuis des décennies. Et en cela, ils sont d'ailleurs pires que les vichistes ou les pétinistes, parce qu'à l'époque, si vous voulez, les choses étaient claires. Il y avait une guerre, la France était occupée, et Vichy collaborait de manière ostensible avec l'occupant nazi. Aujourd'hui, les choses sont évidemment plus feutrées, les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, comme disait Goethe, mais sont souvent homologues. Et si vous voulez, aujourd'hui, vous avez, parce que je lisais un tweet de Thomas Porte qui reprochait la communication du Rassemblement national, qui disait que Mélenchon est l'anti-France, en quoi c'est tout à fait vrai. Et le député LFiste Thomas Porte disait « c'est la même communication que Vichy et c'est normal quand on a été fondé par des SS ». Je me suis permis quand même de lui rappeler que Vichy et les SS ont été ensevelis définitivement sous les bombes en 1945. Et qu'aujourd'hui, les SS, ou en tout cas leurs héritiers idéologiques, ce sont les frères musulmans et leurs tentacules, et Vichy, c'est LFI.
C'est pas exactement la même chose, mais oui, enfin, je vois l'analogie que vous portez.
Vous savez que les frères musulmans sont des grands admirateurs d'Hitler. Hein. Donc c'est pas une coïncidence.
On va dire que je sais pas à quel point voilà donc ces propos vous appartiennent quand même Jean Messia, mais sinon autrement sur le fait que Mélenchon soit candidat, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que en réalité, il avait dit, on s'en rappelle en 2022, faites mieux, je souhaite être remplacé, et finalement personne ne le remplace. Selon vous, qu'est-ce que ça traduit, ce fait que justement Jean-Luc Mélenchon il retourne pour la quatrième fois, alors que lui-même en 2022 avait dit bon bah maintenant c'est quelque part c'est un peu la fin.
Oui, mais je pense que ça c'est un peu le syndrome de tout chef. Hein. Vous savez, même Marine Le Pen l'a répété à plusieurs reprises, c'est quelqu'un est mieux placé que moi, je le suivrai. Je vous rappelle quand même qu'en 2022, quand les sondages donnaient Éric Zemmour 3 points au-dessus de Marine Le Pen, on n'a pas vu Marine Le Pen se désister au profit d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, je vous fiche mon billet que si Marine Le Pen est autorisée par la justice à se porter candidate, ça ne sera pas Jordan Bardella qui ira. Alors qu'on sait très bien que Jordan Bardella est plus populaire qu'elle, il est plus apprécié qu'elle et qu'il ferait sans doute un meilleur candidat qu'elle. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle lui cédera la place. Vous voyez, comme dirait l'autre, la place est bonne et quand on y est, eh bien, c'est comme d'ailleurs Jean-Marie Le Pen lui-même, feu Jean-Marie Le Pen, qui s'est présenté jusqu'à presque 80 ans. Mmh. Voilà, donc je pense que là, sur ce terrain-là, Mélenchon n'y fait pas exception. Et puis surtout, la réalité de la France insoumise, en l'occurrence, puisque vous m'interrogez sur Mélenchon, qui a fait mieux, en fait ? Quelle est la tête qui a émergé, dont on pourrait dire… Alors, on dit que Bali Bagayoko… serait aussi populaire que Mélenchon, sauf que bon, il vient d'arriver, c'est quand même quelqu'un de très récent, une popularité, ça se teste sur la durée, donc je dirais, autant dans d'autres partis, il y a des rivaux sérieux permettant effectivement de se poser la question de savoir si on choisit pas l'un plutôt que l'autre, Jean-Luc Mélenchon, en bon stalinien, a tout fait pour écraser toute forme de concurrence, tout en prétendant évidemment que et en encourageant les gens à faire mieux, et il les a écrasés pour rester le despote gauchiste de son parti. Quoi.
Et est-ce que il a également écrasé toute concurrence à gauche, selon vous ? C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce qu'il y a vraiment une menace Mélenchon pour 2027 ? Est-ce que, selon vous, on rappelle hein, quand même que c'est une des personnalités politiques les plus détestées des Français, est-ce que, justement, il a quand même cette chance, cette possibilité de pouvoir, selon vous, accéder au second tour, voire à la présidence de la République ?
Alors, je rebondis juste sur la première partie de votre propos, sur la personnalité la plus détestée des Français. J'ai envie de dire, de quel Français ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, être Français, en tout cas, avoir le droit de vote et avoir la nationalité française, ça ne veut plus dire grand-chose en réalité. Quand on a naturalisé, et par le droit du sol, etc., des millions de Français, vous avez des gens qui sont Français, mais qui ne sont pas d'identité française. Donc, évidemment que dans les sondages, on ne peut pas non plus, et Dieu merci, séparer les Français et considérer qu'il y a une citoyenneté française à plusieurs vitesses. Je ne dis pas qu'il y a une citoyenneté française à plusieurs vitesses, mais je dis qu'il y a une identité française à plusieurs vitesses. Donc, il est fort probable, si vous voulez, que le sondage dont vous parlez, s'il se fait exclusivement sur les Français issus de des immigrations arabo-afro-musulmanes, vous n'auriez pas le résultat que vous m'aviez cité. Maintenant, si vous noyez dans la totalité des Français, oui, effectivement. Mais de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne compte pas sur les Français dans leur ensemble. Jean-Luc Mélenchon a en réalité déjà abandonné, il exprime d'ailleurs sa haine vis-à-vis des Français de souche européenne, des Français blancs, qu'il qualifie de tout blanc, tout moche. Il ne loupe pas une seule occasion pour les insulter, les injurier, leur dire qu'ils sont passés, qu'il ferait mieux de se laisser remplacer et islamiser en silence.
Ouais, mais justement, pardon, mais Jean Messia…
sur l'immigration et sur les enfants de l'immigration.
Oui, mais Jean Messia, on sait très bien aussi que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas gagner une élection présidentielle uniquement avec le vote de l'immigration.
Mais c'est son pari, Alexandre.
Mais
c'est
pas uniquement pari. Avec ce vote-là. On sait très bien qu'il n'y a pas plus de 50% des Français qui sont descendants de l'immigration africaine.
Mais il y a les descendants de l'immigration arabo-afro-islamique et il y a aussi tous les bobos gaucho-progressistes des centres-villes. Vous savez qu'il avait déjà cette ligne en 2017 et en 2022 et il a manqué à ce moment-là l'élection de près. C'est celui qui fait le mieux à gauche. Mmh. Et donc, il se dit qu'il y a une horloge démographique, une horloge migratoire, que tôt ou tard… ce peuple qui peut aujourd'hui être encore minoritaire, ou en tout cas qui ne représente pas la masse critique électorale permettant de faire basculer définitivement les institutions françaises dans autre chose, il se dit « l'horloge joue pour moi
oui. ».
Voilà, donc le pari de Mélenchon, si vous voulez, c'est un pari qui est un pari de moyen terme, on va dire. C'est pas un pari immédiat.
Jean Messia, il nous reste 1 minute 30. J'aurais une dernière question, alors qui n'était pas prévue, mais qui m'est venue comme ça pendant l'entretien. Au sein de votre propre parti Reconquête, on commence à avoir des bruits comme quoi, effectivement, ce serait plutôt Sarah Knafo qui pourrait se présenter en 2027. Elle a lancé une grande consultation auprès des Français. Donc, ça reste un acte, quelque part, un acte de campagne, cette grande consultation. Est-ce que c'est elle qui ira ?
D'abord, non, c'est pas un acte de campagne. Tous les partis, le Rassemblement national, régulièrement lancent des consultations. Vous n'en déduisez pas pour autant que ce sera un tel ou un tel qui sera candidat à la présidentielle. Ça, c'est la première chose. Pour l'instant, si vous voulez, notre candidat naturel, c'est Éric Zemmour. C'est le président de notre parti. C'est lui qui est attendu pour représenter le parti. Maintenant, ces décisions-là, si vous voulez, leur appartiennent. C'est à Éric de décider, à Sarah de décider. Reconquête est le seul parti qui a le courage de la vérité. C'est le seul parti qui ne s'incline pas devant le système gaucho-progressiste, qui ne fait pas de dédiabolisation, qui ne dit pas ce que les gens ont envie d'entendre. Donc il y aura de toute façon cette voix singulière de Reconquête, cette voix de la vérité aux Français qui sera incarnée. Et que ce soit d'ailleurs Éric Zemmour ou Sarah Knafo, les deux sont extrêmement talentueux. Ils ont le bagage nécessaire, ils ont l'expérience nécessaire et ils ont le talent nécessaire pour convaincre, je l'espère, une majorité de Français.
Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec nous ce matin. Et ben écoutez, la semaine prochaine, je crois que vous ne serez pas là parce qu'on ne diffusera pas, il me semble qu'on sera le jeudi de l'Ascension. Donc on vous dit à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Et tout de suite, on va passer à la chronique de Lorient Simplifié.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Ligne droite. La chronique de Lorient Simplifié.
Et pour cette chronique de Lorient Simplifié, nous retrouvons Jean Vallier, directeur de la communication de SOS Chrétien d'Orient. Jean Vallier, vous vouliez revenir sur l'agression de cette religieuse à Jérusalem la semaine dernière.
Oui, tout à fait. Les images ont fait le tour du monde le 28 avril dernier, alors qu'elle se promenait dans la vieille ville de Jérusalem. Une religieuse française et dominicaine de l'école biblique a été violemment agressée. Après l'avoir bousculé et renversé à terre, son agresseur s'est acharné à coups de pied, s'en prenant notamment à son visage. L'attaque, filmée par les caméras de vidéosurveillance, a été violente et heureusement n'a blessé que très légèrement cette religieuse. La police israélienne a arrêté le suspect le lendemain. Un homme de nationalité israélienne de 36 ans et l'a décrite comme un extrémiste juif. Le consulat français a condamné et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré, je le cite, « La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes antichrétiens qui se multiplient en Terre Sainte et que la France, attachée à sa mission historique de protection des communautés et lieux saints catholiques, ne peut en aucun cas tolérer. » Le consul de France à Jérusalem s'est d'ailleurs rendu à l'école biblique pour soutenir la religieuse agressée. Et oui, Jean-Noël Barrot a raison, les actes antichrétiens se multiplient en Terre Sainte et cette agression est loin d'être isolée. Les réseaux sociaux regorgent d'images de juifs crachant devant les églises, de pèlerins insultés, molestés, bousculés. Les témoignages sont innombrables. « Nous risquons colibets et crachats », raconte un autre père dominicain qui porte quotidiennement son habit religieux. Déjà en février, l'évêque anglican de Terre Sainte déclarait au micro de votre confrère, cher Alexandre Tucker Carlson, dès qu'il portait la soutane dans la vieille ville de Jérusalem, les agressions étaient quotidiennes. Souvenez-vous également de ce qui est arrivé au cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. Le jour des rameaux, donc on est une semaine avant Pâques, il avait été empêché par la police israélienne de se rendre à la basilique du Saint-Sépulcre pour la messe des rameaux. Il respectait pourtant toutes les consignes de sécurité demandées par le gouvernement. Et le scandale, il avait été évoqué à ce micro, avait fait le tour du monde au point que le gouvernement israélien avait dû présenter ses excuses. Bref, il y a un vrai climat antichrétien qui se développe toujours plus en Israël, chez les juifs radicaux.
Cette christianophobie est-elle combattue ?
Alors évidemment, et heureusement, les autorités condamnent ces actes antichrétiens. Ainsi, suite à l'agression de la religieuse, le ministre des Affaires étrangères, le ministre israélien des Affaires étrangères, a qualifié cela de honteux, assurant qu'Israël restait, je le cite, restait engagé à préserver la liberté de religion et la liberté de culte pour toutes les confessions. La violence contre les personnes innocentes et en particulier contre les membres de communautés religieuses n'a pas sa place dans notre société, souligne le communiqué. Nous l'avons dit, l'agresseur a été interpellé, incarcéré, et dimanche dernier, la police a demandé et obtenu son maintien en détention. La faculté des sciences humaines de l'Université hébraïque de Jérusalem, donc une des plus vieilles universités de la ville, a fait part de sa profonde consternation. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un élément d'un schéma inquiétant d'hostilité croissante envers la communauté chrétienne et ses symboles. De même, quand un soldat israélien a brisé un Christ à Débel au Liban, vous vous souvenez de cette affaire, qui elle aussi a été très médiatisée, le commandement militaire l'a arrêté et l'a puni. Je crois même qu'il a été renvoyé de l'armée, ainsi que le soldat qui filmait complaisamment la scène. Pour autant, les chrétiens de Terre Sainte sont inquiets. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père Olivier Poquillon, le directeur de l'école biblique de Jérusalem. On a une vraie préoccupation face à des dérives qui nous semblent être impunies. Il est certain que le fait que le Premier ministre dépend d'une coalition qui comprend des éléments assez extrêmes, certains acteurs peuvent se sentir autorisés à transgresser toutes les règles qu'une société entend s'est donner. Et ce n'est pas neuf, en 2023, après une attaque contre des chrétiens porte de Jaffa à Jérusalem, des responsables religieux chrétiens racontaient que la police, pourtant située à quelques pas du lieu de l'attaque, avait mis une heure à arriver. Autrement dit, il y a une certaine impunité sur tous ces actes antichrétiens, et encore plus quand ils ne sont pas médiatisés. Personne ne voit aujourd'hui pourquoi cela s'arrêterait si les auteurs ne sont pas punis. Et voilà pourquoi il est nécessaire d'en parler.
Alors, en quelques mots, vous venez d'évoquer les éléments assez extrêmes. De qui s'agit-il rapidement ?
Eh bien, ces éléments assez extrêmes, certains d'entre eux sont au gouvernement. Et même le gouvernement dépend d'eux, parce que c'est eux qui font ou peuvent défaire la majorité du Premier ministre Netanyahou. Il s'agit principalement des ministres Itamar Smotrich et Bezalel Ben-Gvir. Et ils n'ont pas des petits postes ou des Marocains négligeables. Le premier ministre des Finances, le deuxième ministre de la Sécurité nationale, c'est donc lui qui supervise la police. Ainsi, lors d'une affaire similaire à celle de la religieuse, là, il y a 3 ans, Itamar Ben-Gvir, qui était déjà ministre de Bezalel Ben-Gvir, pardon, qui était déjà ministre de la Sécurité nationale, avait déclaré que cracher sur des chrétiens n'était pas, je le cite, une affaire criminelle et que cela ne justifie pas une arrestation, même si évidemment on doit condamner. Mais quelques années auparavant, le même ministre Ben-Gvir préférait présenter ses crachats sur les chrétiens comme, je le cite encore, une ancienne coutume juive. L'agresseur de la religieuse, qui s'appelle Yona Schreiber, n'est donc pas juste un déséquilibré, il appartient à cette mouvance idéologique pas très éloignée de Ben-Gvir, qui estime par exemple qu'une croix ou un symbole religieux chrétien dans la vieille ville de Jérusalem est une idolâtrie qu'il faut abattre. Bref, on comprend et on partage l'inquiétude, l'indignation des chrétiens de Jérusalem. Il y a 3 ans, le frère Schnabel, un bénédictin allemand de la ville de la Dormition, sur le mont Sion, résumait les choses ainsi dans la croix. La haine de ces extrémistes n'est pas nouvelle, mais avec ce nouveau gouvernement, ils savent qu'ils ont la permission officielle d'agir. On ne peut plus dire qu'ils sont une minorité avec des gens comme Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich au pouvoir. 3 ans après, les mêmes sont encore au pouvoir et la situation n'a fait qu'empirer.
Merci Jean Vallier, et puis on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles, alors les Britanniques votent jeudi et le parti de Nigel Farage est bien placé.
Oui, à l'occasion d'élections locales, hein, où quelques 5000 sièges de conseillers locaux sont remis en jeu, dans 136 agglomérations d'Angleterre, l'ambition de Nigel Farage est claire, écrit le Figaro, démontrer que son parti a remplacé les conservateurs en tant que formation naturelle de la droite. C'est en Angleterre que Reform UK devrait faire sa plus grosse moisson, certaines estimations lui attribuent 1000, voire 1500 sièges, et on prévoit des gains importants dans le nord de l'Angleterre et les Midlands. Alors, Reform UK pourrait aussi changer la couleur de certaines zones de Londres. Le rouge travailliste pourrait laisser la place au turquoise de Reform dans les quartiers populaires plus blancs, entre guillemets, de la périphérie de la capitale. Arnaud de Lagrange relève que de que saillie provocatrice moins de faute, pardon, que de Nigel Farage a assagi, pardon, son discours avec moins de saillie provocatrice, moins de photos, la pinte de bière à la main dans un pub. Et le parti se sépare désormais rapidement de ceux qui dérapent, comme récemment son responsable des questions du logement. Alors rappelons que Keir Starmer est aujourd'hui le premier ministre le plus impopulaire de l'histoire des sondages britanniques, et les conservateurs seraient aussi donc sur le recul, hein, laissant quelques 600 sièges. Les sondages donnent 25% des voix à Reform UK, tandis que les travaillistes, les Verts et les conservateurs sont autour de 17%, les libéraux-démocrates fermant la marche à 12 points. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
Et puis Natacha Polony publie un livre aux éditions Plomb.
Oui, et vous allez le voir si vous regardez YouTube. Pour en parler, c'est Eugénie Bastier qui s'y est collée. « La France, corps et âme » n'est pas un livre décliniste, écrit-il. C'est plutôt un livre de fidélité inquiète. Fidélité à un pays que l'auteur a appris à aimer, enfant, en arpentant les routes, les musées, les cathédrales. Inquiétude devant sa dépossession méthodique, son enlaidissement, sa désindustrialisation, son effondrement scolaire. Polony est souverainiste sans être jacobine, conservatrice sans être réactionnaire, sociale mais allergique aux rêveries d'une gauche convertie à la société des loisirs, patriote mais hostile aux caricatures identitaires. Elle avoue dans son livre que son souverainisme républicain a été tempéré par le girondisme enraciné de son mari, Perico Lergas. Alors ce basque invétéré amoureux du terroir lui a permis de renouer, elle dit, comme elle l'écrit, avec une France vivante et terrienne. Et puis Eugénie Bastier ajoute avec ferveur qu'elle nous parle des paysages de Touraine, jardin des Capétiens qu'ont construit la France, où flottent les mannes de Ronsard, le rire de Rabelais et l'ombre de Jeanne d'Arc. Voilà, alors paraphrasant Marc Bloch, elle écrit qu'il est deux catégories de Français qui n'aimeront jamais la France réellement, ceux qui n'aiment que son âme et ceux qui n'aiment que son corps. Aurait-elle alors un programme politique avant la présidentielle? Réponse de la journaliste. Pour l'agriculture, elle propose un nouveau pacte avec le consommateur, qu'il faut convaincre d'acheter plus cher les produits meilleurs et plus durables. Bon courage. Pour l'industrie, elle propose la sortie du marché européen de l'énergie, la relocalisation de l'industrie et le protectionnisme douanier. Et pour l'école, des cours de bricolage et de couture pour transmettre aux enfants le goût et la fierté de produire par eux-mêmes. Et un retour de la sélection à l'université. À lire dans le Figaro. Et je vous invite à lire son éditorial dans Marianne contre les intégrismes. Et justement, elle reparle de cette religieuse agressée lâchement à Jérusalem.
Et les Échos Week-end rendent hommage à Jean Mineur.
Oui, je vous invite à lire le supplément des Échos, magazine toujours instructif, qui fait sa une sur le Festival de Cannes et qui, à cette occasion, rend hommage à Jean Mineur. Vous savez, ce gamin à la pioche volant sur un ticket de cinéma que l'on voit avant les films projetés dans les salles de cinéma. Stéphane Joby raconte qu'il fut le premier à instaurer une régie publicitaire dans le cinéma, enterré depuis 85 dans un coin du cimetière en terrasse sur les hauteurs de Cannes, où reposent notamment Prosper Mérimée, Martine Carole ou la famille des princes de la maison de Bourbon des Deux Siciles. Alors, Caroline, la fille de Jean Mineur, est le plus ancien membre du conseil d'administration de Mediavision, né en 1971 de la fusion du groupe Jean Mineur avec ses concurrents Havas et Publicis. Ainsi, la famille Mineur détient 38% des parts de la société, Publicis 10% et la société présidée par Benjamin Badinter, le fils de Robert et Elisabeth, qui détient, lui, 52% des parts. Voilà, une régie publicitaire qui exploite plus de 3630 salles des réseaux Pathé et qui revendique 83% des recettes nationales devant Canal+, qui assure depuis 2012 la régie des salles UGC.
Et puis le quatrième prix, Jean-René Huguenin, a été remis avant-hier à l'hôtel littéraire Le Swan.
Oui, alors un prix en hommage à Jean-René Huguenin, doté de 2000 euros et de deux nuits passées dans cet hôtel, ce très joli hôtel installé dans le quartier de l'Europe et créé par le collectionneur de livres et de manuscrits Jacques Le Tertre, qui a été attribué à Bertrand Duguay, professeur de français au lycée Sainte-Croix de Neuilly, qui est aussi rédacteur en chef du journal Mission. Et il a sorti il y a quelques semaines un premier roman aux éditions Baribal intitulé « La Terre ou les illusions retrouvées », l'histoire rocambolesque au cœur de la Bretagne mythique de ce jeune journaliste en mal de reportage qui tombe un peu par hasard sur un aristocrate qui se dit être prétendant au duché de Bretagne et descendant du roi Arthur. Alors l'action se déroule aujourd'hui et comme l'a écrit Raphaël Simon dans « Famille chrétienne », au cœur des forêts sombres, cette fable contemporaine entre landes et étangs qui rappelle la légende arthurienne, les vieux manoirs au parquet craquant et jusqu'au bar à l'ambiance surchauffée, exhalant l'atmosphère des gilets jaunes, les personnages attachants laissent derrière eux un sillage de nostalgie. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait cette ambiance. À lire donc La Terre ou les illusions retrouvées, un très beau cru de ce prix Jean-René Huguenin, qui, je le rappelle, Jean-René Huguenin est mort à 26 ans et il laisse un journal, un recueil de chroniques, Le Feu à ma vie, et plusieurs romans, dont le seul publié de son vivant, que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas lu, mon cher Alexandre, qui se passe en Bretagne d'ailleurs, La Côte sauvage, qui fut en son temps salué par François Mauriac à sa sortie aux éditions du Seuil.
Merci Gilles Brochard.
Zone libre.
Alors, pour la zone libre, chers auditeurs, je dois vous faire une grande annonce, c'est que quelqu'un a rejoint l'équipe pour les deux prochains mois, et cette personne, eh bien, il s'agit d'Alice Meunier. Alice Meunier, merci d'être avec nous ce matin. C'est la première fois que vous passez à l'antenne, qu'est-ce que ça vous fait ?
Eh ben, c'est un peu bizarre, mais je suis contente.
Voilà, vous devriez être honorée, effectivement, oui, de pouvoir prendre place, mais écoutez, alors, donc, pour cette zone libre, vous nous avez préparé un petit sujet.
Oui, alors, je vais vous parler d'un... je vais vous lire... une mesure normative du ministère de l'Intérieur.
Oula.
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, arrêté du 30 avril 2026 portant composition du comité de présélection ministérielle pour l'établissement de la liste des candidats présélectionnés pour être auditionnés par le comité de sélection interministérielle pour l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des administrateurs de l'État.
J'ai rien compris.
Oui, et bah, c'était, je pense, le but. En effet, on n'y comprend plus rien à la juridiction française.
Mais vous voulez nous faire quoi ? Une explication de texte, peut-être ?
Non, mais du coup, je me suis un peu renseignée quand même pour savoir. Et en effet, c'est simplement que il y a un arrêté qui crée et compose un comité de présélection qui ensuite, ce comité va choisir des candidats qui souhaitent devenir administrateurs de l'État et ensuite va les envoyer à un autre comité de sélection qui va les sélectionner.
On a l'impression d'être à une primaire LR.
Voilà, c'est ça.
C'est du Marcel Aimé, hein, franchement.
Non, mais alors, refaites-nous un petit peu le schéma. Parce que, donc ça, c'est un arrêté que vous avez trouvé. Donc,
oui.
Et donc, il faut donc, un arrêté pour une présélection de candidats à une autre sélection,
oui,
pour devenir administrateur de l'État.
Exactement.
On ne peut pas faire
et
plus d'étapes.
Ce qui est aussi... intéressant, c'est que c'est un tweet de Guillaume Kasbarian, donc qui nous dit on n'y comprend plus rien, alors que c'est un ancien ministre issu du gouvernement qui a mené cette réforme.
Oui, bah oui, forcément, parce que évidemment Guillaume Kasbarian, qui a d'ailleurs fondé son parti récemment, c'est quel est le nom déjà, Gilles? C'est Parti de la Liberté,
oui,
il me semble,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça,
Parti de la Liberté, et donc qui se fait le chantre donc de tout ce qui est de la simplification dans tous les sens. Et en même temps, donc ça, c'est produit par son administration,
oui,
quelque
voilà
part. Ouais, c'est toujours merveilleux. Non, mais il faut jamais s'appliquer ce qu'on prône. Gilles, est-ce que vous pourriez pas faire des explications de texte justement dans ce genre ?
Non, mais c'est surtout la lexicographie qui est très intéressante. Et puis c'est, comme disait Pascal Praud, c'est les petits hommes gris. Mais bon, ça, c'est français. C'est voilà, c'est du Labiche, c'est du Marcel Aimé, c'est tout ce qu'on veut.
Vous donnez une teinte très littéraire à quelque chose qui n'est absolument pas.
Parce que je les vois très bien. On imagine les lustrines, vous savez, et les pupitres dans l'administration française du côté de Bercy, là-bas.
Ouais, c'est absolument affreux. Et donc, du coup, là, vous nous avez fait perdre probablement énormément d'auditeurs, Alice Meunier, parce que, évidemment, personne n'a compris ce que vous avez dit. Mais non, mais dans le fond, effectivement, très, très révélateur, quelque part, de la nécessité de simplification qu'on peut avoir aujourd'hui et de la fin de ces termes techniques qui nous envahissent absolument partout, mais pas ici, sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Ligne Droite qui, d'ailleurs, je dois vous l'annoncer avec regret, s'achève sur X et sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin, chers auditeurs, sur ces deux plateformes. Restez un petit peu avec nous tout de même. Il y a une dernière chose à vous dire.
Eh bien, la chose à vous dire, c'est une chose que l'on vous répète. Il est important que vous nous souteniez financièrement. Donc, pour cela, vous pouvez nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr et également nous faire des dons par chèque en nous les envoyant à la radio, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Voilà, exactement. Et je rappelle aussi pour nos auditeurs sur YouTube qu'il est possible de faire des dons dans le chat. C'est tout à fait faisable. On en a eu quelques-uns récemment. Ça fait très plaisir. En plus, on les voit en direct, donc on peut vous remercier. Et puis tout de suite, on va écouter les menaces de Bruno Retailleau contre les associations identitaires. C'est avec Maître Mathieu Sassy.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Maître Mathieu Sassy. Maître Mathieu Sassy, bonjour, vous êtes avocat, et alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler un petit peu des associations identitaires. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Oui, vous m'entendez?
Très bien, parfait. Alors, le premier sujet, effectivement, sur lequel on voulait poser une question, c'est que il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée donc par Bruno Retailleau, qui a été déposée sur l'entrisme islamiste et qui a été adoptée au Sénat, il y a 2 jours. Et alors, dans cette loi, il y a bien des éléments. Le premier et celui qui vous a le plus alerté, c'est ce que vous disiez, c'est celui du gel des fonds et ressources économiques, avec une possibilité donc pour le gouvernement de mettre une sorte de pression sur les associations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette mesure d'un point de vue législatif?
Oui, alors très concrètement, on a eu une extension qui était passée assez inaperçue dans le débat public. C'est un confrère qui a alerté mon attention là-dessus. Chose que j'ai publiée en effet sur les réseaux sociaux et qui a été largement repris aujourd'hui, c'est que l'extension de la possibilité de geler l'argent des mouvements terroristes est désormais étendue à tous les mouvements dissidents, donc patriotes compris évidemment, mais toute la dissidence, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui dans ce pays font entendre une voix dissonante par rapport au récit unique, sont susceptibles de voir leurs fonds gelés sur simple décision du ministre de l'économie et du ministre de l'intérieur. Voilà, gel des fonds et des ressources économiques, pour, dit l'article 6, quatrièmement de cette proposition de loi adoptée au Sénat, elle est déjà adoptée au Sénat, maintenant elle va venir à l'Assemblée nationale pour discussion, les ressources économiques qui appartiennent ou sont possédées par des personnes physiques, des individus, ou des personnes morales, associations, mais aussi fonds de dotation, voire société à but lucratif, donc c'est-à-dire que toute société constituée, association ou non, est susceptible d'avoir ses comptes ou ses actifs économiques gelés, dans la mesure où ces entités provoquent ou contribuent à la discrimination, et attention le mot-clé, à la haine, d'accord ? Donc en fait, les fameuses mesures de censure qui autrefois s'appliquer uniquement à des mouvements terroristes vont s'appliquer désormais à ce que Jean Sévillier appelait le terrorisme intellectuel, donc c'est-à-dire tous ceux, si vous voulez, qui font entendre une voix dissonante.
Mais alors Mathieu Sassy, pour bien comprendre, le gel des fonds et des ressources économiques, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus accéder à son compte bancaire?
Oui, votre compte bancaire est gelé.
Voilà. Et alors, on sait déjà qu'il existe une forte pression, ne serait-ce que par le fait que beaucoup de banques ferment les comptes de certains militants du camp national en général, qui sont chez eux de manière arbitraire. Pareil, on sent que la pression économique, elle vient se substituer à la pression légale qui existait déjà auparavant. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de faire condamner effectivement ces associations pour violence, pour incitation à la haine, etc. Maintenant, on sent que l'autre méthode, le substitut, c'est de faire une forme de pression économique.
Alors oui, c'est tout à fait vrai que la pression économique est le prolongement de la pression politique, mais que les auditeurs le sachent bien. C'est-à-dire qu'une banque fasse de la discrimination politique, c'est aujourd'hui de notoriété publique, d'accord ? On vous refuse l'ouverture d'un compte, où on vous ferme votre compte, mais on vous restitue votre argent, on vous restitue le fruit de votre travail, on vous restitue le fruit de votre engagement. Ce qui est neuf, c'est que désormais, ce sera gelé, voire confisqué. C'est ça qui est tout à fait nouveau, et c'est-à-dire que sur injonction de la loi, on dira aux banques, même celles qui ont accepté une ouverture de compte, que par ordre de la loi, l'intégralité de ces fonds deviendra inaccessible à ceux à qui ils appartiennent. Et c'est ça qui est tout à fait neuf. C'est une confiscation administrative de vos avoirs.
Et est-ce que ça peut être fait, est-ce que ça peut être fait, justement, vous dites que c'est administratif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de condamnation, il y a juste besoin d'une sorte de suspicion, enfin comment ça marche?
Exactement, ce qu'on a pu voir dans l'actualité s'agissant de Xavier Moreau ou de Monsieur Beau, qui ont pris des positions non conformistes sur la scène internationale, peut s'appliquer désormais à n'importe quel citoyen français. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur décision administrative, sans décision judiciaire, sur décision administrative, dans la mesure où ils considèrent, où ils ont de bonnes raisons de croire que vous contribuez à la haine et à la discrimination dans ce pays, hein, ce qui sont des critères relativement flous, pour ne pas dire orwelliens, le ministre de l'économie, contresigné par le ministre de l'Intérieur, vont geler, vont vous empêcher d'accéder à votre compte bancaire.
Mais alors, j'ai même envie, vous donniez cette, vous parliez de justement cet aspect flou du caractère donc d'incitation à la haine, etc. De ces associations. De manière générale, la loi elle-même, donc qui est proposée lutter contre l'entrisme islamiste en France, elle veut créer un délit d'atteinte au principe de la République. Ça veut dire quoi ça?
Écoutez, les principes de la République, c'est la promotion de l'immigration, d'accord, la promotion de traditions qui sont étrangères à notre pays, et désormais le titre 2 de cette loi, l'assèchement financier, non pas des groupes islamistes, mais des groupes séparatistes. Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est séparatiste selon les valeurs de la République? C'est évidemment la foi catholique, toutes les associations catholiques, ou tous les mouvements conservateurs ou enracinés, d'accord? Donc, assécher le financement des groupes séparatistes...
Maître Sassi, pardon, mais enfin, c'est Bruno, on ne va pas accuser Bruno Retailleau d'être anti-catholique. C'est-à-dire que, bon, il a sans doute plein de défauts, mais l'accuser d'être, effectivement, de vouloir lutter contre le catholicisme en France, ça ne paraît pas très crédible. En l'occurrence, c'est quand même un catholique fervent, oui, plutôt traditionnel,
oui,
etc. Enfin, oui, je dis pas que c'est un saint, mais...
Oui. Mais en fait, moi, si vous voulez, ce que je juge crédible, c'est surtout le titre 2 de cette proposition de loi qui s'appelle, en effet, proposition de loi Retailleau, d'accord, et qui s'appelle assécher le financement des groupes séparatistes, d'accord. Et groupes séparatistes entendaient, en effet, tous les mouvements catholiques enracinés, ou en tout cas, si vous voulez, qui promeuvent les valeurs de la France. Et sous ce quatrièmement, en effet, de la proposition de loi Retailleau, hein, tous ces groupes, dont les milieux catholiques et enracinés ou toute la sphère dissidente, sont susceptibles, en effet, d'entrer ou de voir leur compte bancaire ou toutes leurs ressources financières gelées, voire confisquées, dans la mesure où on considère qu'ils participent à la haine et à la discrimination. D'accord ? Donc, j'ai envie d'ajouter, s'agissant de M. Retailleau, c'est qu'avec des amis comme M. Retailleau, pas besoin d'ennemis.
Et alors, d'une certaine façon, moi, ce qui est évidemment étonnant dans cette loi, c'est que, alors que c'est une loi sur l'entrisme islamiste, comment ça se fait, selon vous, que, justement, les identitaires, le camp patriote, en général, soient visés en miroir ? C'est-à-dire que c'est quand même assez étonnant dans une loi sur l'entrisme islamiste que finalement, il y a quelque chose de très français, quelque part, à vouloir taper sur tout le monde, alors que théoriquement, on voit très bien où est la menace. Et dans le fond, c'est même dans le titre de la proposition de loi, la menace.
Mais les valeurs de la République, et les auditeurs le savent bien, ce sont les valeurs de l'autruche, d'accord ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire officiellement qu'il y a un malaise s'agissant de la présence de l'islam en France au regard de l'identité chrétienne de la France. On ne peut pas le dire, ça. Donc, il faut lutter contre tous les séparatismes. Et dans tous les séparatismes, évidemment, s'il y a une mesure contre les mouvements islamistes, il faut taper sur les mouvements catholiques, d'accord ? Puisque on le sait bien, dans ce pays, si on élève la voix contre des mouvements qui sont contre les valeurs de la France, hein, qui ne sont pas nécessairement celles de la République, eh bien, il faut nécessairement taper sur les autres. Donc, si on attaque l'ultra-gauche, il faut attaquer les mouvements enracinés. Si aujourd'hui, en fait, il y a un malaise avec l'islam, il faut évidemment interdire le catéchisme dans les écoles catholiques. Oui, donc, maintenant, cette rhétorique, elle est bien connue. Et les auditeurs et nos concitoyens doivent bien être alertés que cette proposition de loi de Retailleau a pour but ou va permettre d'assécher financièrement tous les mouvements enracinés, qu'ils soient catholiques ou non, qu'ils soient patriotes ou simplement dissidents, comme on a pu le voir avec la table de Gaïa et la lutte pour les droits des agriculteurs dans le contexte de la vaccination forcée de leurs bêtes.
Et ça fait un petit peu penser à, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui expliquait récemment dans un entretien donné à l'Express, qui comparait le séparatisme régionaliste et le séparatisme des frères musulmans. Enfin, on a l'impression que tout ça participe d'une vaste farce sur républicaniste. D'un autre côté, ce qui interroge un petit peu Mathieu Sassi, c'est que Il y a eu la dissolution de la Jeune Garde qui est arrivée jeudi dernier. Et à ce moment-là, il faut dire que, enfin, qui a été confirmée jeudi dernier en appel. Est-ce qu'on n'a pas cru à un moment que finalement le deux poids, deux mesures anti-patriote s'arrêterait et que justement, peut-être qu'enfin on prenait des mesures sérieuses contre les antifas, contre le système d'extrême gauche?
C'est une plaisanterie, la dissolution de la Jeune Garde. C'est un jeu de dupes, d'accord ? Les soulèvements de la Terre, eux, n'ont pas été dissous, alors qu'ils ont, ils ont des méthodes terroristes, hein. La Jeune Garde est dissous, mais le Conseil d'État ne pouvait pas faire autrement. Mais j'ai envie d'ajouter que la Jeune Garde n'est dissous que maintenant. Sauf que tous les mouvements qui sont liés à la Jeune Garde, notamment leur canal Telegram qui filme et diffuse tous leurs actes violents partout sur le territoire français, continuent d'exister. D'accord ? Donc en fait, cette dissolution est une supercherie. C'est une supercherie. C'est une mesure qui est cosmétique dans un contexte chronique, si vous voulez, où le gouvernement laisse prospérer tout ce qui est tous les mouvements anti-France. Et de temps en temps, en effet, laisse penser qu'il aurait un traitement équitable pour tous. C'est faux.
Vous ne pensez pas que ça va quand même leur nuire, cette dissolution? C'est-à-dire que est-ce que ça ne va pas ne serait-ce que leur rendre la vie plus compliquée? On en parlait l'autre jour avec justement Edouard Bina de la Cocarde ou Stanislas des Natifs qui disaient quand même, faut dire que la dissolution d'une association, ça empêche de se regrouper à nouveau, ça empêche de reproduire les mêmes actions. Enfin, théoriquement, ça reste contraignant.
Non, ça ne reste pas contraignant. La Jeune Garde est dissous. Elle s'est recréée une fois, deux fois, trois fois, dix fois avec des groupes locaux, avec des nouveaux responsables. On a même vu des reportages financés par le service public ou par des médias militants où on voyait d'autres mouvements dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'Alexandre, vous l'avez à l'esprit, où on voit finalement des... Alors, ils appellent ça la lutte contre le FN ou que sais-je. On a entendu Mélenchon...
Éteignons la flamme, notamment.
La flamme, voilà. Éteignons la flamme. On a vu Jean-Luc Mélenchon, responsable politique, entouré d'autres députés LFI, valider, si vous voulez, ce nouveau groupe. Donc non, la mesure qui a été ordonnée par le Conseil d'État, si vous voulez, suppose ensuite qu'il y ait des enquêtes pour recréation de ligues dissoutes, mais c'est toujours pareil. Il faut une volonté politique de lutter contre l'extrême gauche. Or, l'extrême gauche est bien utile dans le jeu électoral, puisque l'extrême gauche lutte contre la France, et c'est également le projet d'un certain nombre d'élus de la République, de lutter contre la France et ses valeurs.
Et vous pensez que c'est aussi le cas d'un Bruno Retailleau, justement, avec sa loi ou du parti, et de son parti? C'est-à-dire que vous pensez qu'en l'occurrence, Bruno Retailleau, faut le ranger dans le camp de l'anti-France pour ces raisons-là?
Mais ce sera, je pense, la conclusion de mon intervention. Avec des amis comme Bruno Retailleau, pas besoin d'ennemis.
À ce moment-là, voilà. Si c'est la conclusion, on terminera là-dessus. Merci, Maître Mathieu Sassy, d'avoir été avec nous ici ce matin et de nous avoir un petit peu éclairé, justement, sur toutes ces associations. Heureusement, on en parlait avec Maëlys quelques minutes plus tôt, que l'ASLA est aussi présente pour pouvoir les défendre quand le besoin s'en fait sentir. Et heureusement que vous êtes là aussi, Maître Mathieu Sassy, dans ces circonstances. Merci beaucoup et à bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Merci à tous d'avoir écouté cette matinale de Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, de nous écouter sur les ondes, de nous avoir écouté aussi sur YouTube, sur X, absolument partout, sur notre site internet même. Et n'hésitez pas surtout à nous soutenir pour que ça continue.
Effectivement, merci Alexandre de le rappeler. Vous pouvez nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien encore adressez vos chèques à Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75 016 Paris. Votre générosité est la garantie de notre indépendance, donc on compte sur vous.
Voilà, et cette indépendance, c'est ce qui nous permet de faire ces émissions que vous aimez tant, émissions qui sont d'ailleurs à venir aujourd'hui.
Alors, au programme de ce jeudi 7 mai, dans un instant, Anthologie de la création, dirigée en direct par Daniel Abrocorn. À midi, le libre journal d'Aude de Kéros, romans et récits ont le pouvoir d'évoquer une réalité complexe, difficile à aborder par les journalistes. Et enfin, en deuxième sujet, le grain de sel de Christine Sourgens. À 17h, vous pourrez suivre sur Sum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré à la foi et à la raison. 17h30 en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Henault, émission à suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. À 19h30, le libre journal des traditions dirigé par l'abbé Alain Laurence est consacré au pèlerinage de Pentecôte 2026 sur le thème « Envoyez des ouvriers à votre moisson ». La session Saint Thomas d'Aquin du 11 au 13 juillet 2026 et puis Sainte Marie-Madeleine, femme de l'Évangile. Et puis enfin ce soir, à partir de 21h30, vous pourrez suivre le libre journal de la souveraineté dirigé en direct par Michel Leblay. Le sujet du Moyen-Orient à l'Ukraine, conflits en cours et géopolitique mondiale.
Eh bien ça fait un très joli programme et nous on ne vous dit pas à demain parce que demain vendredi c'est férié. Je précise aussi que la semaine prochaine on fait le pont de l'Ascension. On ne sera donc pas présent jeudi et vendredi prochain non plus. Mais rassurez-vous, vous pourrez écouter Ligne Droite lundi, mardi, mercredi. Je vous dis donc à ces jours-là.
Merci Alexandre.